Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, l'une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma. The Romeo Foxtrot, shall we dance? L'attaque en hélicoptère avec la chevauchée des Valkyries. C'est Apocalypse Now, un film de Francis Ford Coppola sorti en 1979. Film multi-récompensé, Palme d'Or, deux Oscars, deux Golden Globes. Film rock qui se déroule au Vietnam, à 1000 lieues de l'Allemagne romantique de Wagner. Et pourtant, ce mariage fonctionne. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Qu'est-ce qui a poussé Coppola à choisir du classique pour une scène d'action si badass? Sortez les planches de surf et préparez-vous à pénétrer au cœur des ténèbres. This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend. Nous sommes à la fin des années 60, au Vietnam. Les Américains sont dans le pays depuis 15 ans pour combattre les communistes, le conflit s'est embourbé. Et c'est dans ce contexte que le capitaine Willard, joué par Martin Sheen, est chargé d'une mission particulière, traquer le colonel Kurtz, incarné lui par Marlon Brando. Kurtz, c'est un soldat américain devenu fou, à la tête de ses propres hommes, adoré comme un dieu par les tribus locales.
Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available and terminate the colonel's command.
Willard va devoir remonter le fleuve Nung dans un bateau de l'armée, s'infiltrer dans les rangs de Kurtz et mettre fin à son commandement, en clair, le tuer. Pour cela, il fait équipe avec le lieutenant-colonel Kilgore. Lui est fou, fou de surf, chapeau de cow-boy sur la tête et foulard jaune. Il attaque en musique, au lever du soleil. Ça effraie les ennemis, dit-il, et ça galvanise ses troupes. On entend les hélicoptères qui arrivent petit à petit au-dessus du village, les enfants sortent de l'école pour vite se mettre en sécurité, les soldats vietnamiens prennent leurs armes, 8 minutes de mitraillage et d'explosion sur du Wagner. Wagner, ça détonne dans un film qui utilise comme bande-son les titres rock de l'époque. On a entendu The End des Doors, qui est en ouverture. Il y a aussi les Rolling Stones. Alors l'équipe du film aurait pu trouver une autre chanson de rock pour coller à l'action. Ça aurait été réaliste, puisque les pilotes au Vietnam diffusaient vraiment des morceaux de rock pendant leurs attaques. Mais non, John Milius, le scénariste d'Apocalypse Now, choisit Wagner. Cela lui semble parfait. Il se souvient d'avoir vu des reportages nazis dans lesquels les pilotes de la Luftwaffe bombardaient la Pologne sur cette bande-son. C'est donc une transposition idéale qui permet de mettre en parallèle la barbarie nazie et l'action des États-Unis au Vietnam et donc de dénoncer cette violence, cette folie de la guerre. Une idée simple dont la réalisation a été très compliquée. Le tournage du film a été apocalyptique, le budget a explosé, Coppola a dû hypothéquer ses biens, les équipes étaient droguées, l'acteur principal Martin Sheen a même fait une crise cardiaque pendant le tournage, il a fallu embaucher son frère en remplacement. Tout ça, on peut le voir dans Au cœur des ténèbres, le fabuleux making-of du tournage, Au cœur des ténèbres qui est d'ailleurs aussi le titre de la nouvelle de Joseph Conrad adaptée par Coppola. Bref, tournage et montage très compliqués, la musique ne fait pas exception. Walter Murch, l'un des monteurs du film en charge de la partie sonore, avait choisi une version bien particulière de cette chevauchée des Valkyries, celle de Georg Scholti, Sir Georg Scholti, chef d'orchestre d'origine hongroise naturalisé britannique. En 1966, il dirige l'orchestre philharmonique de Vienne pour une des versions de référence de la Valkyrie, sauf que la maison de disques Decca refuse de céder les droits. I'm trying. Dépité, Murch achète toutes les interprétations de la Valkyrie qu'il peut trouver. Il en écoute 19 versions, mais aucune ne s'approche de celle du maestro. Murch veut quelque chose d'organique, de vivant. Il considère que toutes ces versions alternatives ont un rythme trop régulier, pas assez proche du corps humain. Alors il finit quand même par se résoudre à utiliser une version alternative, mais nouveau problème, les cordes sont trop mises en avant, parce que ce que Murch apprécie chez Scholti, en plus du rythme, c'est l'accent qui est mis sur les cuivres. Là, il ne le sent pas, il trouve que l'ensemble ne s'harmonise pas avec la couleur de l'océan. Et oui, les cordes semblaient molles, dit-il, et le bleu avait l'air mort, la chimie ne marchait pas. Pas le choix, il faut obtenir les droits sur la version de Scholti. La suite, il la raconte.
Luckily, Francis made another effort.
Heureusement, Francis a fait un nouvel essai. Il a contacté directement Sir Georg et lui a expliqué la situation. Scholti a répondu « Bien sûr, mon garçon, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt ?»«
Of course, dear boy, why didn't you talk to me in the first place ?»
Scholti a donné des instructions à Decca et Decca a accepté de nous fournir la musique.
In extremis, la bonne Valkyrie est intégrée au film. Et avec cette version, ça fonctionne, c'est un succès, Palme d'Or à Cannes. Pour la première fois, un réalisateur la reçoit deux fois. 150 millions de dollars de recettes, c'est cinq fois le budget estimé. Une version longue de plus de 3 heures en 2001, une version un tout petit peu plus courte l'année dernière pour fêter les 40 ans de la sortie. Pour comprendre pourquoi La Chevauchée des Valkyries colle si bien au film, revenons sur son origine. Ces quelques minutes, elles sont tirées d'un ensemble d'œuvres de près de 16 heures, la tétralogie de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung en français, un cycle de quatre opéras inspirés par les mythologies nordiques et germaniques. La Valkyrie, dit Walküre en allemand, c'est le deuxième dans l'ordre narratif. Il a été créé en 1870 en pleine période du romantisme musical. Pour faire un résumé, c'est l'histoire de Siegmund qui arrive épuisé chez un couple. Et là, coup de foudre, il tombe amoureux de la femme. Cette femme, elle lui ressemble étrangement, c'est sa sœur jumelle, Sieglinde. Sieglinde, elle est mariée à un homme qui appartient au clan rival de Siegmund. Et comme ils sont rivaux, eh bien il va falloir se battre le lendemain. Siegmund et Sieglinde, ce sont les enfants de Wotan, le roi des dieux, des enfants qui sont nés d'un adultère. Wotan veut les protéger dans le combat qui s'annonce, sauf que la femme de Wotan, c'est la déesse du mariage, et elle ordonne à son mari de favoriser celui qui est trompé. Wotan obtempère et il envoie sa fille Brunhilde au secours du mari. Brunhilde, c'est une valkyrie, une déesse de la guerre. Elle refuse d'écouter son père, elle désobéit et choisit d'aider Siegmund. Le héros est quand même tué et Wotan va devoir punir sa fille qui a désobéi. Nous voilà arrivés au début de l'acte 3, c'est là que se situe le fameux passage. Il ne s'appelle pas la chevauchée, c'est simplement le prélude de cet acte. Les huit autres valkyries se sont retrouvées, elles attendent leur sœur Brunhilde. Elles sont excitées, elles chevauchent leur monture, des chevaux ailés. Brunhilde finit par arriver, elle vient leur demander leur aide pour échapper à la punition de Wotan. Mais ses sœurs refusent et la traîtresse est punie. Elle va devoir rester endormie sur un rocher entourée par du feu. Fin de la Valkyrie. Dès l'origine, c'est donc un thème qui est associé à la guerre aérienne si l'on peut dire, puisque les Valkyries chevauchent leur monture dans les airs. Cette association, elle a été renforcée ensuite pas seulement par les nazis. On peut entendre la chevauchée des Valkyries dans ce qui est considéré par certains comme le premier blockbuster américain, La naissance d'une nation, film de David Wark Griffiths sorti en 1915. Extrêmement novateur sur la forme, raciste sur le fond, puisque ça raconte la guerre de sécession vue par les sudistes. La chevauchée retentit lors d'une attaque, déjà une attaque, celle des membres du Ku Klux Klan contre des esclaves noirs libérés. Autre utilisation, cette fois dans la littérature, nous sommes en 1927, Le Temps retrouvé de Marcel Proust, dernier tome de La recherche du temps perdu. Le narrateur et son ami Robert de Saint-Loup évoquent les bombardements sur Paris durant la Première Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si Francis Ford Coppola a lu La recherche du temps perdu, mais écoutez l'extrait que je vais vous lire, c'est difficile de ne pas y entendre Apocalypse Now. Mais est-ce que tu n'aimes pas mieux le moment où, définitivement assimilé aux étoiles, il s'en détache pour partir en chasse et rentrer après la berloque, le moment où ils font apocalypse, même les étoiles ne gardant plus leur place? Et ces sirènes, était-ce assez wagnérien, ce qui, du reste, était bien naturel pour saluer l'arrivée des Allemands? C'était à se demander si c'était bien des aviateurs et pas plutôt des valkyries qui montaient. Saint-Loup semblait avoir plaisir à cette assimilation des aviateurs et des Valkyries, et l'expliquait d'ailleurs par des raisons purement musicales. « Dame, c'est que la musique des sirènes était d'une chevauchée. Il faut décidément l'arrivée des Allemands pour qu'on puisse entendre du Wagner à Paris. » Un peu plus loin, toujours dans le temps retrouvé, escadrille après escadrille, chaque aviateur s'élançait ainsi de la ville, transporté maintenant dans le ciel, pareil à une Valkyrie. Dernier exemple, en 1976, 3 ans avant la sortie du film de Coppola, c'est Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse. Le comédien passe au fourneau et là je suis quasiment sûr que Coppola n'a pas vu ce film.
Bon, tous les produits sont là.
Oui, monsieur le directeur.
Alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Bresse, au homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous!
Mais tout ça, donc, c'était avant. Avant le choc de cette scène d'Apocalypse Now qui a tellement marqué les esprits qu'elle est devenue à son tour une référence qu'on retrouve partout dans la pop culture. La plupart des œuvres qui utilisent cette musique depuis le font non pas pour mettre l'accent sur la folie, la brutalité, la violence de la guerre, ce qui était le message initial, mais comme un clin d'œil au film de Coppola, et Wagner rime désormais avec hélicoptère. Alors, je ne vais pas faire la liste entière, l'émission durerait des heures, mais quelques exemples. On retrouve la chevauchée des Valkyries dans Watchmen de Zack Snyder, dans un flashback au Vietnam. C'est quasiment la même scène dans laquelle on a ajouté un super-héros gigantesque. Dans le jeu vidéo Far Cry 3, il y a un passage très premier degré où le joueur prend le contrôle d'une mitraillette à bord d'un hélicoptère. Ça, c'est l'étape d'après. Le spectateur devient acteur, il rentre dans le film. Autre jeu vidéo dans lequel on retrouve cette chevauchée des Valkyries, évidemment, Simcopter, une simulation d'hélicoptère, impossible de faire autrement. Et puis il y a aussi des citations qui sont plus étonnantes. On entend Wagner dans Nintendogs, un jeu très mignon dans lequel il faut s'occuper de petits chiens. Autant vous dire qu'on est très très loin de la violence d'Apocalypse Now. C'est devenu un ressort comique, comme dans Les Tuches, la comédie d'Olivier Barreau sortie en 2011, quand la famille Tuche, qui a gagné au loto, s'installe à Monaco et survole la cité.
Mais tu t'es tour, ça doit être la banlieue de Monaco.
Et Donald, regarde les bateaux, là, on dirait des jouets.
Là, on parle de fiction, mais dans un registre beaucoup plus dramatique. Cette scène d'Apocalypse Now a aussi influencé la réalité. La chevauchée des Valkyries a été utilisée par les soldats américains dans les 2 guerres du Golfe. Et cette scène qui devait montrer la folie américaine est devenue une forme de glorification de l'action. On en retient le côté badass, comme on dit en anglais. Ce qui fait dire à un éditorialiste américain en 2003, on parle beaucoup du manque de connaissances historiques des Américains, mais je pensais qu'au moins on avait compris nos films. Voilà, c'est ici que s'arrête notre exploration de l'histoire des Valkyries. Pour résumer cet épisode, la Valkyrie est dès son origine un thème associé à la guerre aérienne et il est utilisé comme tel par les nazis. C'est une référence qui correspond donc parfaitement à la volonté de Francis Ford Coppola de dénoncer la folie de la guerre au Vietnam. Sauf que ce qu'il reste de cette scène aujourd'hui, c'est son côté impressionnant, exaltant. Elle est à son tour devenue une référence réutilisée jusqu'à plus soif dans la pop culture. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée à cette émission sur radioclassique.fr. Vous retrouverez les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité, les différentes scènes des films que j'ai cités et une biographie détaillée de Richard Wagner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt !